le Seigneur, on se jette tête la première dans une alliance, alors que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les amitiés. Non, on réfléchit avant. Et la Bible nous encourage d'ailleurs à réfléchir. Je conclurai une alliance avec toi, mais je te demande une chose. Et je trouve qu'il a été courageux de demander ça, parce que ça aurait pu mal se passer. Mais en fait, d'une part, il a testé Abner. Est-ce que tu es vraiment sincère là? Tu veux vraiment abandonner la loyauté à la maison de Saül? Est-ce que tu es prêt à réparer les bêtises de Saül? Mais il va plus loin. Il ne demande pas à Abner de le faire. Il va envoyer des messagers au roi qu'Abner a mis en place, le fils de Saül, donc le frère de la mariée. Et il lui dit ouvertement, « Donne-moi ma femme Michal, avec qui je me suis fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Et Ish-Bosheth l'envoya prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Son mari l'a suivi jusqu'à Baourim en pleurant. Et Abner lui dit, « Allez, rentre chez toi. » Il rentra chez lui. Alors, il fait d'une pierre deux coups. Il s'arrange pour que le fils de Saül répare le péché de son père. C'est pas mal, il fallait le faire. Et il le fait, brave homme. C'était un brave homme, Ish-Bosheth, je pense. Et puis, la deuxième chose, il va demander à Abner d'être l'accompagnateur de cette dame. Assez humiliant, hein, si on réfléchit deux minutes. Il est en train de défaire ce que son maître, Saül, avait fait, le mal qu'il avait fait. Il le répare, il y a restauration. Et pour moi, c'est un geste de repentance. En fait, il a demandé un geste de repentance. Parce qu'accompagner quand même un chef militaire, vous imaginez, le ministre de la guerre, il doit ramener lui-même la femme et en plus renvoyer ce pauvre monsieur qui pleurait, là, pauvre Paltiel. Il a dû se coltiner ce travail, faire l'accompagnateur. Quand même, si on réfléchit, il y avait derrière une réelle repentance. Il a testé, là, David. Si ce fameux Abner est capable de faire ça, c'est qu'il est sincère. Parce que quand même, c'était assez humiliant hein, pour un chef militaire. Quand même, mettez-vous à sa place, c'est quand même, à l'époque, waouh. Et là, David va pouvoir tester la loyauté d'Abner. Il n'a pas fait ça n'importe comment. Et ça me fait penser à une conversation, je l'ai peut-être déjà dit, mais tout le monde sait que je radote, que j'avais une fois ici avec Marilyn Mitton, pour ceux qui la connaissent, où j'avais parlé de quelqu'un qui m'a fait une mistoufle, et j'avais dit, oh, tout ça, c'est pas grave. Je passe. Elle m'a dit, non, ça se passe pas comme ça. Je l'avais regardée. Comment ça, ça se passe pas comme ça? C'est bien, j'en tiens pas compte. Elle m'a dit, absolument pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Quelqu'un t'a fait du tort, tu dois le reconnaître, toi aussi, pour pouvoir pardonner, dire, cette personne m'a fait du tort. Si possible, on lui dit. Si c'est pas possible, ok, mais devant Dieu, on ne dit pas c'est rien, c'est pas grave, parce que c'est pas vrai. C'est grave. Oh, bon, à côté de la guerre mondiale, devant Dieu, il a tort, il a mal fait, je le reconnais, et je pardonne en toute connaissance de cause. Non pas en disant, c'est pas grave. J'ai pris ma leçon. J'ai gardé ça en tête depuis, parce que c'est vrai que j'avais toujours géré un peu les choses, donc c'est pas grave. C'est que moi, donc c'est pas grave, tant que c'est pas quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, ça, c'est un peu plus dur. Mais moi, c'est pas grave. Et bon, j'ai appris quelque chose ce jour-là, et je trouve que David avait beaucoup de sagesse. Il lui a fait reconnaître, en fait, le mal qu'il lui a fait en lui demandant d'accompagner sa femme. Et ça, c'est bien. Parce qu'Abner était parmi ceux qui avaient poursuivi David. Il ne faut pas l'oublier. Il était aussi celui qui avait accompagné David après Goliath pour le présenter à Saül. Donc, ils avaient une longue histoire, tous les deux. Et il fallait remettre les choses en place. Tu me ramènes ma femme. Mais il demande au roi. Il respecte la royauté qui a été mise en place. Il lui fait comprendre, c'est pas toi le roi. Un, c'est pas toi le roi. Je demande au roi. Deux, eh ben, il faut réparer ce que ton maître a fait, et tu étais de ceux qui m'ont couru derrière, quoi. Il le sait, Abner. Donc, il remet les choses en place, calmement, sans faire d'histoire, mais il est très ferme. Et parce que je me suis dit un peu, oh, il est sympa, là, David, il accepte tout de suite l'alliance. Puis ça, en lisant de près, j'ai dit, ah non, il a posé des conditions. Et ça, c'est bien. La repentance est toujours nécessaire pour faire une alliance. Si la repentance n'est pas là, si la personne en face ne se repent pas, c'est pas votre responsabilité, c'est pas notre responsabilité. Mais s'il y a alliance à faire, c'est pas possible. On peut aimer les gens, leur pardonner, mais quand on arrive sur une alliance, il faut qu'il y ait repentance. C'est normal. Et là, David, tout David qu'il était, il était au clair là-dessus. Alors, je ferai en sorte que tout Israël se rallie à toi. À part ça, il avait du pouvoir, hein. Tout Israël. Il avait tout Israël au bout des doigts. Pourquoi ? Mais il l'admirait. Et puis quand les Philistins venaient faire une incursion, oh, Abner ! Et Abner, super soldat, super équipe, il filait, il les délivrait. Tout le monde l'aimait, Abner. Évidemment, c'était leur sécurité un petit peu, hein. Donc on a vu que David, lui, il est prudent, il va le tester. Il lui demande une chose difficile et symbolique, redonner sa femme, donc réparer tout le mal qui lui avait été fait. Et Abner, là, s'affiche ouvertement pour David, en accompagnant sa femme. Vous imaginez ? Le téléphone arabe, alors il n'y avait pas les médias, mais alors le téléphone arabe, ça marchait, hein ? Voyez l'équipage, vous imaginez ? La fille de Saül, elle ne devait pas sortir en short, hein ? Il y avait tout un équipage autour, hein, les dames de compagnie, les machins et trucs. Et ça se voyait sur la route. Puis quand on n'a pas la télé, ni l'ordinateur, ni ci, ni ça, ben quand il se passe quelque chose sur la route, tout le monde est dehors. Moi, j'ai encore connu l'époque où quand on allait en Lorraine, ou ça, c'est les villages qui s'étendent le long de la rue, les gens mettaient leurs chaises le soir après manger pour regarder ce qui se passait. J'ai connu ça, ça m'amusait beaucoup quand j'étais petite. On allait traverser la Lorraine, voir tous les gens assis sur leurs chaises dehors, regarder ce qui se passait, le peu de choses qui se passaient. Et du coup, bah, ils étaient tous là. Oh, un équipage royal, plus ou moins quand même, avec le chef de l'armée. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Et il s'en va voir David, Oh, il va se faire tuer. Mais non, il fait alliance avec David, vous imaginez ? Tout ce qui... Et il a supporté ça, Abner. Quand même, t'es courageux. Il répare le mal qu'a fait Saül, symbole de repentance, de réparation, qui va permettre une véritable alliance. Alors ça, on a vu. Et puis on passe au verset 17. Au passage, le pauvre Paltiel... Ah oui, ça je voulais vous le dire. Il a malheureusement accepté une injustice. Il a profité d'une injustice. Attention, dans notre business, dans nos relations, dans toute notre vie, de ne pas profiter d'une injustice. Vous savez, quand les nazis ont envahi l'Alsace, bien sûr, ils ont déporté beaucoup de juifs. Et dans le village de mes beaux-parents, juste à la fin de la guerre, ou juste après la guerre, il y a eu des ventes de meubles des juifs. Et mes beaux-parents étaient sur le point de se marier après 10 ans d'attente à cause de la guerre, etc. Ils n'avaient pas trop d'argent, donc ils ont acheté ces meubles pas trop chers et très beaux. Et puis, grâce à Dieu pour eux, cette famille juive est rentrée. Il a fallu redonner les meubles. Sans être remboursé, évidemment. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que bon, les pauvres, ils n'ont pas réalisé tout ça sur le coup. Mais on n'a pas, en tant que chrétien, on n'a pas à profiter d'une injustice. Paltiel a eu tort. Il a pleuré, le pauvre homme, mais il avait profité d'une injustice faite à David. Attention, et je pense qu'il faut y penser. Parfois, les gens peuvent nous proposer des choses, mais si c'est au détriment de quelqu'un, au détriment volontaire de quelqu'un, attention, on est chrétien. Et Dieu ne peut pas approuver. Donc, c'est vrai pour beaucoup de choses, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses dans la vie, mais soyons prudents. Ne pas profiter d'une injustice. Bien, Abner adressa ce message aux anciens d'Israël. Il n'est pas encore arrivé, hein, chez David. Vous avez toujours désiré avoir David comme roi. Ah tiens, il le savait. Là, il pousse quand même, hein. Il savait ça. Et il a continué à soutenir Saül. Maintenant agissez, car le Seigneur a dit de lui. Ah là, il devient de plus en plus choquant. C'est par l'intermédiaire de David, mon serviteur, que je sauverai Israël, mon peuple, de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Oh là 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 là. Ils savaient ça. Alors en plus, on ne retrouve pas ce texte dans la Bible. J'ai vérifié, les commentateurs disent on le trouve nulle part. On pense que c'est les prophètes à la suite de Samuel qui auraient dit ça et que ce serait quelque chose de connu dans tout Israël. Mais en tout cas, ou c'est lui qui l'a fabriqué, ce qui serait un peu plus gênant, mais enfin, c'était la vérité de toute façon. Donc, il savait. Et il va envoyer ce message dans tout Israël, aux anciens d'Israël. Vous avez toujours désiré avoir David comme roi. Et c'est vrai, si vous regardez, la Bible dit qu'au début, quand il était encore ami avec Saül, tout le peuple l'aimait. Et même toute la cour, ils disent la cour aimait David. Et ça, c'est important. Donc, il dit la vérité, vous avez toujours désiré avoir David comme roi. Et il donne la prophétie. Il dit ça avant de partir à tout Israël. Donc, aux anciens, évidemment, hein, aux anciens d'Israël, qui vont transmettre à toutes les tribus. Donc, il y avait quand même 10 tribus qui étaient là, puisque lui était de la tribu de Benjamin, David de la tribu de Juda. Donc, il reste 10 tribus, les Lévites qui étaient répartis dans tout le peuple et les autres tribus. Donc, vous voyez le pouvoir qu'il avait, cet Abner. Pensez pas que Dieu lui avait donné une occasion de le servir là. Dieu avait un plan pour la vie d'Abner, d'être celui qui allait réunir Israël sous David. Dieu avait un plan pour Abner. Et ce gros malin, il a tout fait foirer. Parce qu'il a travaillé avec son raisonnement, au lieu de s'appuyer sur ses paroles qu'il connaissait. Donc vous voyez, on peut connaître la Bible parfois. On peut même citer des versets de la Bible. Et puis quand même faire les choses à notre idée, au lieu d'obéir à ce que la Bible nous dit. Ah, Abner, on le sent très proche de nous, hein? Vraiment très proche de nous, le pauvre. Abner arriva auprès de David à Hébron. Donc après avoir déjà bien préparé le peuple d'Israël avec les anciens, et avec 20 hommes, un petit peu de prudence quand même, David donna un banquet pour Abner et pour les hommes qui étaient avec lui. Et Abner dit à David, je vais partir pour rassembler. Donc là, il avait informé, maintenant il va rassembler tout Israël sous ton autorité, ô roi, mon Seigneur. C'est clair, son allégeance est à David. Ils concluront une alliance avec toi et tu régneras. Et non pas je régnerai, parce qu'il pouvait, hein, il avait le pouvoir. Tu régneras sur tout ce que tu désires. David laissa partir Abner qui s'en alla en paix. Ah, alors bravo David. Parce que c'est quand même Abner qui lui a cassé les pieds pendant des années, qui était à la tête de l'armée. Et je trouve qu'Abner a quand même été sympa aussi, parce que David s'était bien moqué de lui quand il avait pris la cruche et la lance de Saül, disant « Oh Abner, tu protèges pas ton roi, qu'est-ce que t'as fichu cette nuit ?» Il avait un peu d'humour. Oh, c'est bien d'avoir de l'humour. Hein. Mais bon, il lui a pardonné apparemment. David a eu la preuve de la sincérité d'Abner, c'était la première étape. Maintenant, il est conscient que revenir avec David, vers David avec Michal était une repentance et une restauration coûteuse pour Abner, et il l'accueille. Il a compris qu'il avait fait suffisamment d'efforts, la repentance, la restauration sont là, et il l'accueille comme un frère. C'est beau, hein? Et il va lui faire un banquet. Alors nous, à notre époque, un banquet, ça nous dit pas grand-chose, si ce n'est que c'est un repas. Ah, pas à cette époque-là. On ne mangeait pas avec n'importe qui, surtout quand on était juif en plus. Faire un banquet, c'était un signe de pardon, c'était un signe d'alliance. Et quand on partageait avec une personne le pain, le vin et le sel, c'était un signe d'alliance très très fort. D'ailleurs, pourquoi on fait la Sainte-Cène ? Le pain et le vin. Je vous raconte toujours, là aussi je radote, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Laurence d'Arabie s'était perdu, enfin, si vous ne connaissez pas le film, quelqu'un pourra vous le raconter. Il s'était perdu dans le désert, il a failli mourir de soif, il a été recueilli par une tribu nomade, et il était à moitié inconscient quand il a entendu des gens qui rentraient dans la tente où il était, et qui le cherchaient, qui le recherchaient activement. Et il s'est dit, je suis fichu. Vu la récompense qui était proposée, il s'est dit, c'est fini, là. Ces gens, ils sont pauvres, on leur propose des millions, c'est fini, je suis mort. Puis il entend les gens qui repartent, et puis celui qui l'avait recueilli est une sorte de chef nomade qui vient vers lui et qui lui dit, là il va falloir que tu partes ailleurs, on va veiller sur toi. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas vendu? Mais tu avais partagé le sel et le pain et le vin avec nous. On ne peut pas trahir quelqu'un qui a partagé. Hein, c'est un film qui n'est pas chrétien, hein, mais c'est très intéressant parce que ça montre que à cette époque, en plus, et même voyez encore récemment chez ces populations-là, quand on a partagé un repas avec quelqu'un, on a partagé le pain, le vin, le sel, chacun doit avoir sa signification, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, eh bien, on ne rompt plus l'alliance, on ne trahit plus. Et donc, c'était fort, cette alliance, un banquet. C'était fort, on comprend que Joab était furax après ça, parce que c'était vraiment le symbole de l'alliance, le banquet. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi au repas du Seigneur. David, et vous savez, dans la Bible, il représente, c'est une figure de Christ. Et en tant que figure de Christ, celui qui pardonne, celui qui remet la faute. Quand on vient vers lui avec repentance, on est prêt à réparer nos erreurs, il nous reçoit et il ne nous reçoit pas entre deux portes, il nous reçoit un banquet. Et ça, pour nous, chrétiens, il faut s'en souvenir, c'est une particularité du christianisme. Le pardon nous donne une alliance complète, un amour sans réserve de la part de Dieu. Ça, vous ne trouverez pas ça dans d'autres religions. Il faut toujours essayer de gagner la faveur de Dieu. Là, une fois que le pardon a été demandé, il est accordé. Et ce n'est pas seulement, ok, je te pardonne, maintenant tu peux rentrer chez toi, je t'invite à un banquet. Et je fais alliance avec toi, la même alliance qu'avec Abraham. Malgré tous nos défauts, on n'est pas mieux qu'Abder. Pour certains d'entre nous, on a poursuivi les chrétiens, on s'est mal comporté, etc. Et le pardon de Dieu est total. Ça, c'est important. Et pour les jeunes, c'est important que vous vous rappeliez toujours de ça. Jésus est un Dieu de pardon. Et vous ne trouverez pas ça ailleurs. Il vous pardonne. Et si vous avez gros sur le cœur pour un problème ou un autre, vous le confessez, il vous pardonnera. Et quand la repentance est sincère, c'est absolu. Et c'est une alliance qui est derrière, un banquet et une alliance. Donc Jésus nous accueille, et je crois que David est un très très bon exemple de ça. Malgré tout ce que Abner avait pu faire, le pardon est total. Mais ce n'est pas un pardon à la gomme, ce n'est pas un pardon à la guimauve. Abner est passé par une réelle repentance dans les fêtes. Et ça, c'est important, parce que parfois, on va dire, oh ben oui, mais Jésus, il est mort sur la croix pour pardonner tout le monde. Vous entendrez quand même des copains d'école qui vont vous dire ça. Ouais, Jésus, c'est bien, mais il est mort pour pardonner tout le monde. Non, il est mort pour pardonner tous ceux qui viennent à lui et qui lui demandent pardon. Hein? Le cadeau, il est prêt, mais il faut quand même venir le chercher. Quand même. Et il nous accueille à sa table. Il fait alliance avec nous. Alors, c'est la fin de la guerre. Abner va s'en aller en paix. Et ce verset-là, il est très important. Parce que si vous remarquez les versets suivants, ça revient, ça revient, ça revient. Et c'est ça qui va choquer Joab. Comment t'as pu laisser partir Abner en paix? Non mais c'est pas possible. Joab, on va juste aborder le début. Les hommes de David et de Joab revenaient d'une expédition ramenant un grand butin. Ça dit grand-chose. Joab, lui aussi, chef militaire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des incursions. Ah ben les Amalécites et les Philistins, ils avaient l'habitude. Eh ben lui aussi. Et il passait chez les Amalécites, il passait chez les Philistins, il raflait tout ce qu'il trouvait. Le bétail, les richesses, l'or, l'argent, pouf, 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 il rentrait avec un butin énorme et il distribuait. Joab, quel chef militaire, peur de rien. Un petit peu comme Abner, c'est des frères jumeaux un peu d'ailleurs. Joab était du côté de David, Abner était du côté de Saül, mais c'est un peu la même chose. Et il avait cette particularité de ramener du butin. Ça, on le voit tout au long de sa carrière. Et puis, la Bible nous dit, Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait laissé partir. Il s'en était allé en paix, encore une fois. Et on va le voir tout au long du texte. Lorsqu'arrivèrent Joab et toute l'armée qui était avec lui, on dit à Joab, Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qu'il l'a laissé partir, et il s'en est allé en paix. Vous voyez, c'est très insistant, la paix que Dieu donne dans une alliance. Joab se rendit chez le roi et lui dit, mais qu'as-tu fait? Oula, il est colère. Abner est venu te voir, pourquoi l'as-tu laissé partir? Et le laisser librement. Voilà, ça se gâte. Tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te duper qu'il est venu, pour connaître tes plans de campagne, pour savoir tout ce que tu fais, l'espion. James Bond. Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira à l'insu de David. Oh le chameau, il ne tire rien à David. Ah, sa loyauté envers David, elle est relative, hein? quand j'ai une chose en tête, et vous allez voir, c'est une des failles, on va travailler après sur les failles de Joab, c'est une de ses failles. Quand il a quelque chose en tête, la soumission à David, au panier. Donc il lui dit rien. Ah, mais il ne s'embête pas, il dit rien. Il envoie des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira, donc il avait dû s'arrêter près d'une oasis. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, le pauvre Abner, il était en confiance, il avait fait alliance. Il s'était repenti, enfin, il était en confiance. Il l'attira à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville pour lui parler tranquillement, qui était l'hypocrite dans l'affaire. Et là, il le tua d'un coup au ventre pour venger le sang de son frère. Joab était dans la vengeance. C'était un militaire, il n'arrivait pas à comprendre le concept de la grâce et du pardon. Le cœur de David... David avait été sage, il avait vérifié que la repentance était sincère. Ce n'était pas un imbécile qui, oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il était conscient du danger, il avait pris ses précautions, il avait s'est adressé au roi, il lui avait demandé quelque chose de très difficile à faire qui signifiait repentance et réparation, et il a fait son alliance. Lui, il a fait les choses bien. Vous remarquez que Joab ne pose aucune question. Il ne dit pas à David, il dit simplement pourquoi tu as fait ça. Je pense que David a dû lui répondre à ce propos. Mais c'est même pas transcrit dans la Bible, parce qu'il n'a absolument pas écouté. Vous savez, les textes, ça parle. Hein. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de réponse comme ça, oh, oh, c'est-à-dire que l'autre, il n'a pas écouté. Hein. Il n'en a rien à faire, même si David lui a dit « Mais j'ai pris mes précautions, je t'assure, il est sincère. » Il pose ses questions, il s'en va, il est furieux, il prend sa décision. Et vous savez à qui il fait penser, Joab, on en reparlera peut-être un petit peu la semaine prochaine, il me fait penser au frère aîné du fils prodigue. Le fils prodigue est venu dans la repentance. Et son père va être obligé d'expliquer au frère aîné, mais attends, ton frère qui était perdu, il est retrouvé. La grâce, le pardon. Ah, lui, il n'était pas du tout en cette dynamique, le frère aîné. Et Joab, c'est vraiment le frère aîné. Et lui, il va jusqu'au bout. Il le tue. T'as tué mon frère, je te tue, la loi du talion. En plus, il avait tort, bibliquement, il avait tort, parce qu'il a agi par trahison, alors que Abner avait agi en légitime défense. Donc j'ai vérifié, Deutéronome, etc. Il était en légitime défense quand il a tué Azaël. Il ne l'a pas tué pour son plaisir, d'ailleurs il était bien embêté. Et lui, Joab, vous allez voir, ce n'est pas la dernière fois qu'il agit par pure vengeance, sans tenir compte de ce que Dieu dit, sans tenir compte de la loi, sans tenir compte de sa soumission à l'autorité. Il n'en a rien à faire, il est puissant et il va faire ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est embêtant. Donc on en reparlera la prochaine fois. Mais pour terminer... Dieu a un plan, Dieu avait un plan merveilleux pour que ça se passe bien, que la soumission d'Israël se fasse naturellement. Elle était bien partie, les messagers étaient envoyés, lui il rentrait pour rassembler le peuple pour qu'il prête allégeance à David. Et tout est foutu. Ça aurait pu très mal tourner, justement on verra la semaine prochaine comment David a réussi à s'en sortir. Mais il a fallu qu'il y mette le paquet de tout son cœur, parce que là... L'unité du peuple qui était prévue par Dieu depuis un bon bout de temps, elle était fichue. Ils avaient tué celui qui devait faire l'unité. C'est malin, hein ? Tout ça pour défendre David, il l'empêchait d'être le roi de tout Israël. Vous voyez comme quoi, quand on suit son instinct, qu'on suit sa chair, on comprend qu'il a eu envie de se venger. Mais s'il avait eu une bonne conversation avec David, il aurait pu comprendre les choses. Je fais ce que je veux et je la vengeance, la chair. Et le plan de Dieu était en panique là. Comment Israël va se réunir alors qu'on vient d'assassiner sauvagement et par traîtrise celui qui commençait à faire l'œuvre d'unité? Eh bien parce qu'il se trouve que Dieu avait un plan, mais le diable aussi. Et on va parler de ça la semaine prochaine. Dieu a un plan pour nos vies. Le problème, c'est que le diable aussi, il en a un. Et c'est le pasteur d'Ouganda qui avait très bien expliqué ça. Dans chaque fois que Dieu a un plan pour une nation, pour une personne, pour un groupe, une église, une famille, le diable dresse l'oreille et dit « Ah, qu'est-ce que je peux détruire ?» C'est exactement ce qui s'est passé. Et il se sert de qui? Et c'est ça qui fait mal au cœur. Là, il se sert de la personne la plus proche de David. Il va se servir de gens qui ont plein de qualités. Il va se servir de gens valables. Mais comment il va faire? Et ça sera le thème de la semaine prochaine. Il va exploiter nos failles. Et là, on est tous dans le pétrin. On a tous des failles. Et c'est ça qui va attirer l'ennemi. Un peu comme les mouches sont attirées. Hein, si vous avez une plaie l'été, vous avez vu comment les mouches n'arrêtent pas de venir. Eh bien, c'est comme ça. Nos failles attirent l'action de l'ennemi. Et il va se servir de nos failles pour ficher en l'air les plans de Dieu. pour notre vie, etc. Comment s'en protéger? Ben, on va parler de ça la semaine prochaine, mais Dieu a un plan et gardons ça en tête. Surtout les jeunes, on dit « Oh, mais moi, j'ai que 11 ans, 12 ans, 15 ans. » Ah, mais bien sûr que Dieu a un plan pour votre vie et un plan de valeur. Donc, attention à vos failles. Même jeunes, on peut avoir des failles, imaginez ça. Vous n'êtes pas parfait parce que vous avez 10, 11 ans. Hein. Voilà. Mais vous êtes très bien quand même. On vous aime beaucoup. Mais voilà, c'est bon d'y travailler de bonne heure. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous protège aussi.